La petite sirène d'Andersen, deuxième partie. Lorsque sa tête apparut à la surface de la mer, le soleil venait de se coucher, mais les nuages brillaient encore comme des roses et de l'or, et l'étoile du soir étincelait au milieu du ciel. L'air était doux et frais, la mer paisible. Près de la petite sirène se trouvait un navire à trois mâts. Il n'avait qu'une voile dehors à cause du calme, et les matelots étaient assis sur les vergues et sur les cordages. La musique et les chants y résonnaient sans cesse. Et à l'approche de la nuit, on alluma 100 lanternes de diverses couleurs, suspendues au cordage. On aurait cru voir les pavillons de toutes les nations. La petite sirène nagea jusqu'à la fenêtre de la grande chambre. Et chaque fois que l'eau la soulevait, elle apercevait à travers les vitres transparentes une quantité d'hommes magnifiquement habillés. Le plus beau d'entre eux était un jeune prince aux grands cheveux noirs, âgé d'environ 16 ans. Et c'était pour célébrer sa fête que tous ces préparatifs avaient lieu. Les matelots dansaient sur le pont, et lorsque le jeune prince s'y montra, 100 fusées s'élevèrent dans les airs, répandant une lumière comme celle du jour. La petite sirène eut peur et s'enfonça dans l'eau. Mais bientôt elle reparut, et alors toutes les étoiles du ciel semblèrent pleuvoir sur elle. Jamais elle n'avait vu un pareil feu d'artifice. De grands soleils tournaient, des poissons de feu fendaient l'air, et toute la mer, pure et calme, brillait. Sur le navire, on pouvait voir chaque petit cordage, et encore mieux les hommes. Oh, que le jeune prince était beau! Il serrait la main à tout le monde, parlait et souriait à chacun, tandis que la musique envoyait dans la nuit ses sons harmonieux. Il était tard, mais la petite sirène ne put se lasser d'admirer le vaisseau et le beau prince. Les lanternes ne brillaient plus et les coups de canon avaient cessé. Toutes les voiles furent successivement déployées et le vaisseau s'avança rapidement sur l'eau. La princesse le suivit, sans détourner un instant ses regards de la fenêtre. Mais bientôt, la mer commença à s'agiter, les vagues grossissaient, et de grands nuages noirs s'amoncelaient dans le ciel. Dans le lointain brillaient les éclairs, un orage terrible se préparait. Le vaisseau se balançait sur la mer impétueuse, dans une marche rapide. Les vagues, se dressant comme de hautes montagnes, tantôt le faisaient rouler entre elles comme un cygne, tantôt l'élevaient sur leur cime. La petite sirène se plut d'abord à ce voyage accidenté, mais lorsque le vaisseau, subissant de violentes secousses, commença à craquer, lorsque tout à coup le mât se brisa comme un jonc et que le vaisseau se pencha d'un côté tandis que l'eau pénétrait dans la cale, alors elle comprit le danger. Et elle dut prendre garde par elle-même, et elle dut prendre garde elle-même aux poutres et aux débris qui se détachaient du bâtiment. Par moments, il se faisait une telle obscurité qu'elle ne distinguait absolument rien. D'autres fois, les éclairs lui rendaient visibles les moindres détails de cette scène. L'agitation était à son comble sur le navire. Encore une secousse! Il se fendit tout à fait, et elle vit le jeune prince s'engloutir dans la mer profonde. Transportée de joie, elle crut qu'il allait descendre dans sa demeure. Mais elle se rappela que les hommes ne peuvent vivre dans l'eau, et que par conséquent, il arriverait mort au château de son père. Alors, pour le sauver, elle traversa à la nage les poutres et les planches éparses sur la mer, au risque de se faire écraser, plongea profondément sous l'eau à plusieurs reprises, et ainsi elle arriva jusqu'au jeune prince, au moment où ses forces commençaient à l'abandonner, et où il fermait déjà les yeux, près de mourir. La petite sirène le saisit, soutint sa tête au-dessus de l'eau, puis s'abandonna avec lui aux caprices des vagues. Le lendemain matin, le beau temps était revenu, mais il ne restait plus rien du vaisseau. Un soleil rouge, aux rayons pénétrants, semblait rappeler la vie sur les joues du prince. Mais ses yeux restaient toujours fermés. La sirène déposa un baiser sur son front, et releva ses cheveux mouillés. Elle lui trouva une ressemblance avec la statue de marbre de son petit jardin, et fit des vœux pour son salut. Elle passa devant la terre ferme, couverte de hautes montagnes bleues, à la cime desquelles brillait la neige blanche. Au pied de la côte, au milieu d'une superbe forêt verte, s'étendait un village avec une église ou un couvent. En dehors des portes s'élevaient de grands palmiers, et dans les jardins croissaient des orangers et des citronniers. Non loin de cet endroit, la mer formait un petit golfe, s'allongeant jusqu'à un rocher couvert d'un sable fin et blanc. C'est là que la sirène déposa le prince, ayant soin de lui tenir la tête haute et de la présenter aux rayons du soleil. Bientôt, les cloches de l'église commencèrent à sonner, et une quantité de jeunes filles apparurent dans un des jardins. La petite sirène s'éloigna en nageant et se cacha derrière quelques grosses pierres pour observer ce qui arriverait au pauvre prince. Quelques moments après, une jeune fille vint à passer devant lui. D'abord, elle parut s'effrayer, mais se remettant aussitôt, elle courut chercher d'autres personnes qui prodiguèrent au prince toute espèce de soins. La sirène le vit reprendre ses sens et sourire à tous ceux qui l'entouraient. À elle seule, il ne sourit pas, ignorant qu'il avait sauvé. Aussi, lorsqu'elle le vit conduire dans une grande maison, elle plongea tristement et retourna au château de son père. Elle avait toujours été silencieuse et réfléchie. À partir de ce jour, elle le devint encore davantage. Ses sœurs la questionnèrent sur ce qu'elle avait vu là-haut, mais elle ne raconta rien. Plus d'une fois, le soir et le matin, elle retourna à l'endroit où elle avait laissé le prince. Elle vit mûrir les fruits du jardin, elle vit fondre la neige sur les hautes montagnes, mais elle ne vit pas le prince. Et elle retournait toujours plus triste au fond de la mer. Là, sa seule consolation était de s'asseoir dans son petit jardin et d'entourer de ses bras la jolie statuette de marbre qui ressemblait au prince, tandis que ses fleurs négligées, oubliées, s'allongeaient dans les allées comme dans un lieu sauvage, entrelaçaient leurs longues tiges dans les branches des arbres et formaient ainsi des voûtes épaisses qui obstruaient la lumière. Enfin, cette existence lui devint insupportable. Elle confia tout à une de ses sœurs, qui le raconta aussitôt aux autres. Mais à elle seule et à quelques autres sirènes, qui ne le répétèrent qu'à leurs amis intimes. Il se trouva qu'une de ces dernières, ayant vu aussi la fête célébrée sur le vaisseau, connaissait le prince et savait l'endroit où était situé son royaume. « Viens, petite sœur, » dirent les autres princesses. Et s'entrelaçant les bras sur les épaules, elles s'élevèrent en file sur la mer devant le château du prince. Ce château était construit de pierres jaunes et luisantes. De grands escaliers de marbre conduisaient à l'intérieur et au jardin. Plusieurs dômes dorés brillaient sur les toits, et entre les colonnes des galeries se trouvaient des statues de marbre qui paraissaient vivantes. Les salles, magnifiques, étaient ornées de rideaux et de tapis incomparables, et les murs couverts de grandes peintures. Dans le grand salon, le soleil réchauffait, à travers un plafond de cristal, les plantes les plus rares, qui poussaient dans un grand bassin au-dessous de plusieurs jets d'eau. Dès lors, la petite sirène revint souvent à cet endroit, la nuit comme le jour. Elle s'approchait de la côte et osait même s'asseoir sous le grand balcon de marbre qui projetait son ombre bien avant sur les eaux. De là, elle voyait au clair de lune le jeune prince qui se croyait seul. Souvent, au son de la musique, il passa devant elle dans un riche bateau pavoisé, et ceux qui apercevaient son voile blanc dans les roseaux verts la prenaient pour un signe ouvrant ses ailes. Elle entendait aussi les pêcheurs dire beaucoup de bien du jeune prince, et alors elle se réjouissait de lui avoir sauvé la vie, quoiqu'il l'ignorât complètement. Son affection pour les hommes croissait de jour en jour. De jour en jour aussi, elle désirait davantage s'élever jusqu'à eux. Leur monde lui semblait bien plus vaste que le sien. Ils savaient franchir la mer avec des navires, grimper sur les hautes montagnes au-delà des nues. Ils jouissaient d'immenses forêts et de champs verdoyants. Ses sœurs ne pouvant satisfaire toute sa curiosité, elle questionna sa vieille grand-mère, qui connaissait bien le monde plus élevé, celui qu'elle appelait, à juste titre, les pays au-dessus de la mer. « Si les hommes ne se noient pas, » demanda la jeune princesse, « est-ce qu'ils vivent éternellement? Ne meurent-ils pas comme nous ?»« Sans doute, » répondit la vieille, « ils meurent, et leur existence est même plus courte que la nôtre. Nous autres, nous vivons quelquefois 300 ans, puis, cessant d'exister, nous nous transformons en écume, car au fond de la mer ne se trouve point de tombe pour recevoir les corps inanimés. Notre âme n'est pas immortelle. Avec la mort, tout est fini. Nous sommes comme les roseaux verts. Une fois coupés, ils ne verdissent plus jamais. Les hommes, au contraire, possèdent une âme qui vit éternellement, qui vit après que leur corps s'est changé en poussière. Cette âme monte à travers la subtilité de l'air jusqu'aux étoiles qui brillent. Et de même que nous nous élevons du fond des eaux pour voir le pays des hommes, ainsi eux s'élèvent à de délicieux endroits, immenses, inaccessibles au peuple de la mer. « Mais pourquoi n'avons-nous pas aussi une âme immortelle ?» dit la petite sirène affligée. « Je donnerais volontiers les centaines d'années qui me restent à vivre pour être homme, ne fût-ce qu'un jour, et participer ensuite au monde céleste. »« Ne pense pas de pareilles sottises, » répliqua la vieille. « Nous sommes bien plus heureux ici en bas que les hommes là-haut. »« Il faut donc un jour que je meure. Je ne serai plus qu'un peu d'écume. Pour moi, plus de murmures des vagues, plus de fleurs, plus de soleil. N'est-il donc aucun moyen pour moi d'acquérir une âme immortelle ? Un seul, mais à peu près impossible. Il faudrait qu'un homme conçût pour toi un amour infini, que tu lui devinces plus cher que son père et sa mère. Alors, attaché à toi de toute son âme et de tout son cœur, s'il faisait unir par un prêtre sa main droite à la tienne, en promettant une fidélité éternelle, son âme se communiquerait à ton corps, et tu serais admise au bonheur des hommes. Mais jamais une telle chose ne pourra se faire. Ce qui passe ici dans la mer pour la plus grande beauté, Ta queue de poisson, ils la trouvent détestable sur la terre. Pauvres hommes, pour être beaux, ils s'imaginent qu'il leur faut deux supports grossiers qu'ils appellent jambes. La petite sirène soupira tristement en regardant sa queue de poisson. Soyons gais, dit la vieille, sautons et amusons-nous le plus possible pendant les 300 années de notre existence. C'est, ma foi, un laps de temps assez gentil, nous nous reposerons d'autant mieux après. Ce soir, il y a bal à la cour. On ne peut se faire une idée sur la terre d'une pareille magnificence. La grande salle de danse tout entière n'équitait que de cristal, des milliers de coquillages énormes rangés de chaque côté, éclairaient la salle d'une lumière bleuâtre, qui à travers les murs transparents, illuminait aussi la mer au dehors. On y voyait nager d'innombrables poissons, grands et petits, couverts d'écailles luisantes comme de la pourpre, de l'or et de l'argent. Au milieu de la salle coulait une large rivière, sur laquelle dansaient les dauphins et les sirènes, au son de leur propre voix qui était superbe. La petite sirène fut celle qui chanta le mieux, et on l'applaudit si fort que pendant un instant la satisfaction lui fit oublier les merveilles de la terre. Mais bientôt elle reprit ses anciens chagrins, pensant au beau prince et à son ami mortel. Elle quitta le chant et les rires, sortit tout doucement du château et s'assit dans son petit jardin. Là, elle entendit le son des cors qui pénétraient l'eau. Le voilà qui passe, celui que j'aime de tout mon cœur et de toute mon âme, celui qui occupe toutes mes pensées, à qui je voudrais confier le bonheur de ma vie. Je risquerai tout pour lui, pour gagner une âme immortelle. Pendant que mes sœurs dansent dans le château de mon père, je vais aller trouver la sorcière de la mer, que j'ai tant eu en horreur jusqu'à ce jour. Elle pourra peut-être me donner des conseils et me venir en aide. Et la petite sirène, sortant de son jardin, se dirigea vers les tourbillons mugissants derrière lesquels demeurait la sorcière. Jamais elle n'avait suivi ce chemin. Pas une fleur, ni un brin d'herbe n'y poussait. Le fond, de sable gris et nu, s'étendait jusqu'à l'endroit où l'eau, comme des meules de moulin, tournait rapidement sur elle-même, engloutissant tout ce qu'elle pouvait attraper. La princesse se vit obligée de traverser ces terribles tourbillons pour arriver au domaine de la sorcière, dont la maison s'élevait au milieu d'une forêt étrange. Tous les arbres et tous les buissons n'étaient que des polypes, moitié animaux, moitié plantes, pareils à des serpents à 100 têtes sortant de terre. Les branches étaient des bras longs et gluants, terminés par des doigts en forme de verre, et qui remuaient continuellement. Ses bras s'enlaçaient sur tout ce qu'il pouvait saisir, et ne le lâchaient plus. La petite sirène, prise de frayeur, aurait voulu s'en retourner, mais en pensant au prince et à l'âme de l'homme, elle s'arma de tout son courage. Elle attacha autour de sa tête sa longue chevelure flottante, pour que les polypes ne pussent la saisir, croisa ses bras sur sa poitrine, et nagea ainsi, rapide comme un poisson, parmi ces vilaines créatures dont chacune serrait comme avec des liens de fer quelque chose entre ses bras, soit des squelettes blancs de naufragés, soit des rames, soit des caisses ou des carcasses d'animaux. Pour comble d'effroi, la princesse en vit une qui enlaçait une petite sirène étouffée. Enfin, elle arriva à une grande place dans la forêt, où de gros serpents de mer se roulaient en montrant leur hideux ventre jaune. Au milieu de cette place se trouvait la maison de la sorcière, construite avec les os des naufragés, et où la sorcière, assise sur une grosse pierre, donnait à manger à un crapaud dans sa main, comme les hommes font manger du sucre aux petits canaris. Elle appelait les affreux serpents ses petits poulets, et se plaisait à les faire rouler sur sa grosse poitrine spongieuse. « Je sais ce que tu veux !» s'écria-t-elle en apercevant la princesse. « Tes désirs sont stupides. Néanmoins, je m'y prêterai, car je sais qu'ils te porteront malheur. Tu veux te débarrasser de ta queue de poisson et la remplacer par deux de ces pièces avec lesquelles marchent les hommes, afin que le prince s'amourache de toi, t'épouse et te donne une amie mortelle. » À ces mots, elle éclata d'un rire épouvantable, qui fit tomber à terre le crapaud et les serpents. « Enfin, tu as bien fait de venir. Demain, au lever du soleil, tu t'étais trop tard, et il t'aurait fallu attendre encore une année. Je vais te préparer un élixir que tu emporteras à terre avant le point du jour. Assieds-toi sur la côte et bois-le. Aussitôt, ta queue se rétrécira et se partagera en ce que les hommes appellent deux belles jambes. Mais je te préviens que cela te fera souffrir, comme si l'on te coupait avec une épée tranchante. Tout le monde admirera ta beauté, tu conserveras ta marche légère et gracieuse, mais chacun de tes pas te causera autant de douleur que si tu marchais sur des pointes d'épingle, et fera couler ton sang. Si tu veux endurer toutes ces souffrances, je consens à t'aider. » « Je les supporterai, » dit la sirène d'une voix tremblante, en pensant au prince et à l'ami mortel. « Mais souviens-toi, » continua la sorcière, « qu'une fois changée en être humain, jamais tu ne pourras redevenir sirène, jamais tu ne reverras le château de ton père. Et si le prince, oubliant son père et sa mère, ne s'attache pas à toi de tout son cœur et de toute son âme, ou s'il ne veut pas faire bénir votre union par un prêtre, tu n'auras jamais une âme immortelle. Le jour où il épousera une autre femme, ton cœur se brisera, et tu ne seras plus qu'un peu d'écume sur la cime des vagues. J'y consens, dit la princesse, pâle comme la mort. En ce cas, poursuivit la sorcière, il faut aussi que tu me payes. Et je ne demande pas peu de choses. Ta voix est la plus belle parmi celles du fond de la mer. Tu penses avec elle enchanter le prince, mais c'est précisément ta voix que j'exige en paiement. Je veux ce que tu as de plus beau en échange de mon précieux élixir. Car pour le rendre bien efficace, je dois y verser mon propre sang. Mais si tu prends ma voix, demanda la petite sirène, que me restera-t-il? Ta charmante figure, répondit la sorcière, ta marche légère et gracieuse, et tes yeux expressifs. Cela suffit pour entortiller le cœur d'un homme. Allons, du courage, tire ta langue que je la coupe, puis je te donnerai l'élixir. Sois, répondit la princesse, et la sorcière lui coupa la langue. La pauvre enfant resta muette. Là-dessus, la sorcière mit son chaudron sur le feu pour faire bouillir la boisson magique. La propreté est une bonne chose, dit-elle en prenant un paquet de vipères pour nettoyer le chaudron. Puis, se faisant une entaille dans la poitrine, elle laissa couler son sang noir dans le chaudron. Une vapeur épaisse en sortit, formant des figures bizarres, affreuses. À chaque instant, la vieille ajoutait un nouvel ingrédient, et lorsque le mélange bouillit à gros bouillons, il rendit un son pareil au gémissement du crocodile. L'élixir, une fois préparé, ressemblait à de l'eau claire. « Le voici, dit la sorcière, après l'avoir versé dans une fiole. Si les polypes voulaient te saisir quand tu t'en retourneras par ma forêt, tu n'as qu'à leur jeter une goutte de cette boisson, et ils éclateront en mille morceaux. » Ce conseil était inutile, car les polypes, en apercevant l'élixir qui luisait dans la main de la princesse comme une étoile, reculèrent effrayés devant elle. Ainsi, elle traversa la forêt et les tourbillons mugissants. Quand elle arriva au château de son père, les lumières de la grande salle de danse étaient éteintes. Tout le monde dormait sans doute, mais elle n'osa pas entrer. Elle ne pouvait plus leur parler, et bientôt elle allait les quitter pour jamais. Il lui semblait que son cœur se brisait de chagrin. Elle se glissa ensuite dans le jardin, cueillit une fleur de chaque parterre de ses sœurs, envoya du bout des doigts 1000 baisers au château, et monta à la surface de la mer.